Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public. Nous reprenons le cours de nos émissions politiques ordinaires, celles qui traitent de l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler, que nous allons essayer d'éclairer avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la situation des jeunes face à l'emploi. Manuel Valls a annoncé la semaine dernière la mise en place de plusieurs mesures qui renforcent les aides sociales destinées aux jeunes. Le montant des bourses sera revalorisé et un étudiant boursier pourra continuer de percevoir cette allocation 4 mois après la fin de ses études. Les minima sociaux devraient être ouverts aux jeunes dès l'âge de 18 ans, alors que le RSA n'était jusqu'à présent accessible aux moins de 25 ans que sous des conditions très particulières. Cette proposition, que Manuel Valls appelle le revenu universel, est issue du rapport remis par le député socialiste Christophe Sirugue sur la simplification des aides sociales. En outre, le Premier ministre a annoncé qu'il taxerait les contrats en CDD pour encourager les entreprises à embaucher en CDI. Les annonces de Manuel Valls voient le jour en pleine contestation de la loi El Khomri, dite loi travail, notamment par une partie de la jeunesse française, qui a organisé 5 journées de mobilisation depuis le mois de février. Après la manifestation du 31 mars à Paris, plusieurs personnes ont entrepris d'occuper la place de la République, initiative connue aujourd'hui sous le nom de Nuit Debout, concept qui a essaimé dans d'autres villes de France et qui revendique notamment pour modèle les Indignés, mouvement qui a vu la naissance du parti Podemos, et la prochaine manifestation organisée contre la loi El Khomri aura lieu jeudi. Les opposants à ce projet de loi travail redoutent une précarisation accrue, notamment à travers les assouplissements des règles d'embauche. Le gouvernement a fait valoir que ces mesures serviraient en particulier aux jeunes pas ou peu diplômés qui souffrent les premiers d'un chômage de masse, la moitié d'entre eux étant sans emploi 3 ans après leur sortie du système éducatif, contrairement aux jeunes ayant un niveau Bac plus 5, dont 9% seulement ne parviennent pas à trouver un emploi 3 ans après l'obtention du diplôme. En tout, un quart des jeunes est au chômage en France, soit 5 points de plus que la moyenne européenne. Sur cette question, Thierry Pech.
Oui, alors, d'abord des commentaires sur la peur qui a parcouru les rangs de la majorité et du gouvernement lorsqu'ils ont commencé à entendre que le contexte était propice à une mobilisation des jeunes, qui fussent lycéens ou étudiants. On avait tous en tête le 10e anniversaire du CPE et la possibilité de voir un nouveau mouvement de masse de la jeunesse dans la rue. Bon, d'ailleurs, c'est pas tellement la mobilisation des syndicats qui faisait peur, c'est vraiment celle des jeunes. Et le gouvernement pouvait avoir des raisons de craindre cette jeunesse, non seulement parce que cette jeunesse connaît sa force dans la rue, mais parce qu'elle connaît aussi des épreuves nombreuses dans la vie, dans la société. En réalité, la mobilisation a été assez molle, assez dispersée. Elle n'est pas finie. Il est possible que, au lendemain au retour des vacances de Pâques, il y ait à nouveau des jeunes dans la rue et en nombre. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans la dynamique d'une mobilisation comme avait été la mobilisation contre le CPE. Et cette divergence par rapport aux attentes, elle tient beaucoup au fait que la jeunesse n'est qu'un mot, comme disait je ne sais plus quel sociologue, la jeunesse n'existe pas, il y a des jeunesses. Et la jeunesse qu'on voit dans la rue ne peut pas parler pour toute la jeunesse. Il y a aussi celle qui ne parle pas, celle qui n'est pas là, celle qui a préféré l'expression par les émeutes en 2005, mais aussi celle qui n'est ni du côté de l'émeute, ni du côté de la manifestation de rue classique. Et ça commence à être très sensible, cette affaire-là, y compris dans les universités. L'UNEF est sortie battue de beaucoup d'élections récentes. C'est la FAJ, la Fédération des Associations Généralistes Étudiantes, qui a pris le dessus dans les élections récentes. Donc, au fond, la jeunesse qui imaginait ceux qui craignaient un mouvement de masse, elle est aujourd'hui beaucoup plus diverse, beaucoup différemment représentée, différemment mobilisée, voire totalement démobilisée. Dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même une forte mobilisation numérique, qui n'a pas été que celle de la jeunesse, mais qu'on a du mal à interpréter. Est-ce que c'est ça la nouvelle forme des mouvements sociaux demain ? C'est une question qu'on est en droit de se poser, sur laquelle on pourra revenir. Alors le gouvernement a réagi à cette situation, certains diront surréagi, mais je ne crois pas, par toute une série de mesures en faveur des jeunes. Ça va de la garantie jeune, que demandaient des organisations comme la FAGE, jusqu'à l'annonce du RSA à 18 ans et pas simplement à 25 ans. Alors on peut dire surréagir, on peut regarder ces mesures comme des mesures circonstancielles, je crois pas. Je pense que ces mesures s'inscrivent dans l'engagement qui avait été celui du président de la République de faire beaucoup en faveur des jeunes. Et je pense que la plupart de ces mesures sont réellement défendables. La garantie jeune, c'est la possibilité d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Ils en ont souvent besoin, parce que chercher un emploi quand on est jeune, c'est un travail en soi, et ça mérite d'être accompagné. Et nous avons tous intérêt, eux les premiers, mais la collectivité également, à ce que ce chemin vers l'emploi soit le plus court possible. Le RSA à 18 ans, moi je ne comprenais pas la justification de cette absence de minima sociaux jusqu'à 25 ans. Pourquoi cette discrimination ? Donc je pense qu'il était temps effectivement de mettre les majeurs dans une situation de majeur, dans une situation d'adulte, et de cesser de les considérer comme de vieux mineurs jusqu'à 25 ans. Donc ces mesures ne me paraissent pas être simplement des mesures circonstancielles, mais des mesures tout à fait défendables et pour la plupart opportunes.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je ne discuterai pas. Sur les mesures en question, je ne m'attarderai pas. C'est évidemment très difficile de les contester. À partir du moment où vous développez des indemnités, des minima sociaux, etc., il y a toujours des gens qui vous disent, et ils ont raison, qu'il y a des situations très difficiles pour telle catégorie de jeunes et que ça fait du bien. Je crois que ce n'était ni opportun, parce que nous sommes quand même dans un excès de dépenses sociales de cet ordre, ni, je crois, adapté au problème fondamental qui est celui des jeunes. Aujourd'hui, le grand problème, c'est d'entrer dans la société adulte. On y entre par le chômage, on y entre dans des circonstances, dans des situations très difficiles, et je pense que c'est une erreur de considérer que ça facilite en fait l'idée qu'il y a deux voies. Il y a la voie de l'emploi et la voie de l'indemnisation. Et je pense que c'est pas une bonne idée de mettre sur le même plan ces deux voies. Alors je crois qu'il y avait des... Et puis en plus, je crois que ça note... Moi, par exemple, j'ai toujours été favorable, pour améliorer le recrutement dans l'enseignement secondaire, de rétablir ce dont j'ai bénéficié d'ailleurs dans ma jeunesse, et qui a été supprimé depuis, c'est-à-dire les IPES, c'est-à-dire de faire payer de donner un salaire, un pré-salaire, à des gens qui se destinent à l'enseignement. On a un vrai problème de recrutement dans l'enseignement, et le fait de s'adresser à des jeunes gens de 18 ans ou 19 ans en leur offrant quelque chose... De plus, c'était intéressant. Je crois de la même manière, et à l'envers, que c'est une erreur sur l'artisanat de dire qu'on doit payer les apprentis entre 16 et 18 ans de la même façon qu'après 18 ans. Je crois qu'il y a... Alors, 25 ans, je suis d'accord, c'est sans doute beaucoup trop âgé pour le RSA, je crois que Thierry a raison. Mais il y a quand même une transition entre la formation et la vie adulte où, à mon avis, il est bon que des jeunes qui sont en général, qui n'ont pas de charge de famille, qui sont assez portés par leur propre famille, qui, s'ils font des études, bénéficient de bourses et doivent bénéficier de bourses et de traitements particuliers, que ces jeunes soient mis en situation de très grande responsabilité. Mais là, je reconnais que mon discours est un discours de vieux con de droite. C'est clair.
Allons.
Non, mais
ne vous vantez pas.
J'enlève la droite. Alors au-delà de ça, je trouve absolument, et c'est ça qui me choque profondément, je trouve absolument désastreux l'approche catégorielle des problèmes qui sont posés. La loi El Khomri, c'est une loi, j'ai dit que je l'aurais votée si j'avais été parlementaire et si elle m'avait été soumise dans sa forme initiale, je l'aurais volontiers votée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Je comprends assez Monsieur Gattaz. Mais en tout cas, c'est une loi qui pose un problème global du contrat de travail, du rapport entre les personnels à statut, et même le contrat à durée indéterminée devient presque un statut dérogatoire compte tenu de l'importance d'importance numérique des contrats à durée déterminée. Et donc, c'est un problème global du marché de l'emploi. C'est pas un problème de jeunes ou de pas jeunes. Et je trouve que c'est une très grave erreur qui est compréhensible uniquement d'un point de vue électoraliste. Alors, le gouvernement fait de l'électoralisme, c'est quand même pas de chance, parce que faire autant d'électoralisme pour arriver à avoir aussi peu d'intention de vote dans les sondages, c'est vraiment peine perdue. Bon, mais en tout cas, ils font de l'électoralisme alors qu'ils devraient, ce dont le pays souffre, y compris et d'abord les jeunes, c'est d'une perspective globale, un équilibre global de la société française. De même qu'on ne peut pas s'adresser au problème du chômage à partir des chômeurs. On s'adresse au problème du chômage à partir de l'économie, de sa croissance, de son contenu en emploi, des charges. C'est pas un contrat qu'on passe avec les entreprises. C'est quel est le bon réglage en termes de prélèvement, en termes de réglementation qui permet aux entreprises de faire de la croissance et à travers ce phénomène, éventuellement, parce que c'est pas le rôle des entreprises de faire de l'emploi, c'est une conséquence indirecte de faire de l'emploi. Donc c'est une question globale pour la société et je trouve que cette façon de saucissonner les choses à des fins électorales est extrêmement coupable. Et je dirais un mot encore sur l'un des sujets qui m'ont préoccupé, c'est de voir cette fixation sur le... Là aussi, je vais tenir des propos réactionnaires, mais cette histoire de debout la nuit, la place de la
République,
la nuit debout, peu importe.
Debout les morts, la nuit debout.
Je crois que c'est une vision. Alors là, je suis très inquiet. Ben, vous avez parlé d'indignation. L'indignation, c'est un terme qui a été inventé par Stéphane Hessel. Qu'est-ce que c'est que l'indignation? C'est la révolution qui n'a plus les moyens. C'est-à-dire, vous avez une espérance révolutionnaire, il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus de camp socialiste, il y a un capitalisme universel, donc vous êtes mélancolique, vous êtes le désespoir, c'est la mélancolie, c'est un désespoir qui n'a plus les moyens, disait le regretté Léo Ferré, et l'indignation, c'est une révolution qui n'a pas les moyens. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on met à la place? On met quelque chose qui est, à mon avis, la plaie de la société politique française, c'est-à-dire l'idée qu'on réunit des gens sur n'importe quoi, qu'on fait une espèce de fusion, qu'on n'a aucune étude, aucune réflexion préalable. C'est la signification de la mort des deux choses qui comptent, c'est-à-dire le sens de la durée et le sens des priorités. Et on essaie d'organiser une... Et les gens se reconnaissent dans une espèce de fusion. Et ça me rappelle vraiment... c'est un changement de place. La prise de la Bastille, telle qu'elle est vue par Jean-Paul Sartre, où il montre que, à la faveur de la prise de la Bastille, le groupe fusionne, le groupe se réunit, les individus abolissent leurs différences entre eux, et Raymond Aron disait très justement que c'était une pensée fondamentalement fasciste, parce que elle se traduisait par l'expulsion, l'hostilité de ceux qui n'étaient pas d'accord avec cela. Alors là, deux changements. On a remplacé la place de la Bastille par la place de la République. Il faut faire un boulevard pour y arriver, mais c'est la même chose. Et on a remplacé la Bastille par Alain Finkielkraut.
Jean-Paul Sartre.
Et Jean-Paul Sartre est mort.
Sylvie Goffin.
Oui, alors il y a deux dimensions à ce qui se passe en ce moment. Il y a la dimension économique, la dimension emploi, ou plutôt non-emploi. Et puis il y a qui amène donc le gouvernement à prendre des mesures ou à proposer des mesures que vous avez exposées. Et puis il y a la contestation politique et les deux sont évidemment liés. Sur l'économie, j'irai très vite, mais vous avez cité un chiffre, Philippe, qui est tout à fait intéressant et révélateur, qui est que le taux de chômage parmi les jeunes en France est de 5 points supérieur à la moyenne européenne, c'est ça?
Oui.
Alors il y a un autre chiffre, moi, qui me frappe terriblement, c'est que ce taux de chômage parmi les jeunes de moins de 26 ans, qui est donc de 24,6% aujourd'hui, il est supérieur de pratiquement 4 points à ce qu'il était en 2005 en France. Il était de 21,5% au moment du mouvement contre le CPE. Et c'est tragique. Ça veut dire qu'en 10 ans, on s'est vraiment installé, la jeunesse s'est vraiment installée dans une situation permanente de chômage structurel. C'est-à-dire la crise pour cette génération n'est plus une crise, théoriquement, c'est quelque chose de passager dont on peut imaginer qu'elle prendra fin à un moment donné. Et là, on a l'impression, je crois en tout cas pour cette génération, d'être installé dans une crise structurel, qui n'est plus du tout transitoire, et donc qu'on accommode avec des mesures de bricolage. Alors ça s'appelle à un moment CPE, ça s'appelle CDD, ça s'appelle taxation du CDD, enfin voilà, ça s'appelle emploi d'avenir, garantie jeune, enfin voilà, il y a tout ce train de mesures qui sont prises régulièrement et qui ne permettent pas vraiment à cette jeunesse de voir le bout du tunnel. Parce qu'évidemment, le problème est beaucoup plus profond. Alors là, on a maintenant une offre d'une mesure plus radicale, qui est celle de l'extension du RSA dès 18 ans, aux gens âgés de 18 ans. Moi, je trouve aussi que c'est une bonne idée par rapport à ce qui existe maintenant, qui est 25 ans. Mais en même temps, comme dit Martine Aubry, plutôt que d'avoir une mesure, ça serait mieux de leur donner du boulot plutôt qu'une nouvelle mesure d'assistanat. Mais on n'est pas en mesure, on n'a pas la possibilité de leur donner du travail sans révolution économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce projet de loi, dans cette loi, pardon, El Khomri, il y a des mesures intéressantes. Elle a des mérites, cette loi, mais les jeunes sont incapables de voir les mesures techniques qui seraient susceptibles, en réalité, de favoriser leur insertion dans le marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans la politique, dans les gens, dans la classe politique, et aussi parce que le pouvoir politique est trop faible pour leur vendre ces mesures et les convaincre de leur utilité. Et donc, ça débouche sur cette contestation politique sur laquelle j'aimerais revenir tout à l'heure.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je crois que cette espèce d'angoisse de la jeunesse devant la difficulté à s'insérer dans le monde économique et dans le monde des adultes est parfaitement compréhensible compte tenu du chômage, de ce fait que celui-ci touche 25% des jeunes non diplômés et que les diplômés eux-mêmes ont le plus grand mal à entrer sur le marché du travail une fois acquis leur diplôme. Au fond, le monde pour eux, on peut le comprendre, il est relativement simple malheureusement. Il y a un paradis à peu près inatteignable qui s'appelle le CDI, le contrat à durée indéterminée. Mais pour arriver à ce paradis qui leur est promis avec leur diplôme, ils doivent passer par un long purgatoire qui comporte un stage, puis deux stages, parfois trois stages, qui peuvent ou ne peuvent pas déboucher sur un CDD. Enfin, ce purgatoire paraît à peu près éternel. Alors, il est clair qu'un des remèdes à cette angoisse, c'est la réforme du marché du travail et notamment la réforme du contrat de travail. Alors, on a beaucoup parlé à ce micro de la loi El Khomri, dans sa première mouture, dans sa deuxième mouture. Elle était bien orientée, cette loi. Elle comportait dans sa première mouture beaucoup de choses que moi aussi, si j'étais parlementaire, j'aurais volontiers voté. Mais elle ne s'est pas attaquée de front au problème du contrat de travail et au problème du contrat de travail unique, notamment. Je compare cela avec ce qui se passe en Italie, où M. Renzi a fait une véritable réforme du code du travail et a inventé une formule toute simple qui est de la généralisation du contrat à durée indéterminée avec des droits qui vont en progressant au fur et à mesure de l'ancienneté acquise. Il est trop tôt pour en mesurer pleinement les effets, puisque ça n'a qu'un an à peu près. Mais enfin, quand on voit déjà le chiffre des créations d'emplois en Italie comparé au chiffre des créations d'emplois en France, on voit qu'une partie du problème, au moins, est en train d'être résolue. Alors, une fois qu'on a dit ceci, on ne peut que s'étonner quand même d'un certain nombre de choses. Et je le dis très rapidement en passant. Il y a plusieurs sujets d'étonnement. Le premier sujet d'étonnement, c'est que la jeunesse se soit mobilisée contre la loi El Khomri, par exemple. Alors, je sais bien qu'il y a une espèce d'algorithme invisible dans la vie politique qui veut qu'une fois tous les 10 ans, la jeunesse s'enflamme sur tel ou tel sujet. Le CPE, c'était en 2006, ça fait exactement 10 ans, mais le CPE était une mesure maladroite et très catégorielle, puis elle s'adressait à la jeunesse. Alors que la loi El Khomri ne s'adresse pas particulièrement à la jeunesse. C'est une loi de portée générale. Et malgré tout, la mobilisation des syndicats étudiants, quand même, alors je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Thierry a dit sur la faiblesse du syndicalisme étudiant, mais quand même, c'est extraordinaire. C'est une mobilisation en faveur du statu quo qui est précisément ce qui est la source de l'angoisse des jeunes. Ce qui crée la précarité, ils disent qu'ils refusent un monde de précarité. Bien sûr, je ne peux qu'être en sympathie avec ça, mais le monde de précarité vient de la situation actuelle. Et par conséquent, se mobiliser pour qu'on ne la change pas, quand on a 20 ans, c'est une chose qui, j'avoue, me dépasse, puisque c'est le changement qui est au contraire porteur, me semble-t-il, de remèdes et non pas du tout le statu quo. Première source d'étonnement. La seconde source d'étonnement, c'est la réaction du gouvernement devant l'angoisse de la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec Thierry, avec Jean-Louis, pour dire que beaucoup des mesures qui ont été décidées sont au fond bonnes, sont justifiées. On se demande pourquoi elles n'ont pas été prises plus tôt, finalement. Le président Hollande avait déclaré que la jeunesse était sa priorité. Il aura attendu 4 ans pour que ces mesures soient énoncées en rafale, quasiment, sur le perron de Matignon, parce que les étudiants en colère avaient été reçu par le Premier ministre. C'est une réaction de panique du gouvernement qui se traduit heureusement par de bonnes mesures, mais qui encore une fois souffre de cette présentation qui est une présentation de réaction à une situation de crise. Voilà. Et ma troisième source d'étonnement, c'est la passivité et le laxisme des autorités de la République, malgré les demandes des maires du quartier, devant la permanence de Nuit debout à la République en période d'état d'urgence.
Oui, je pense qu'il y a deux questions différentes qu'on ne peut pas résoudre de la même manière. Il y a d'un côté la question que vient d'évoquer François, les corps représentatifs ou se présentant comme tels des étudiants qui vont à Matignon et qui obtiennent à un moment de tension proche d'une prochaine élection très importante, qui obtiennent en rafale des mesures dont on peut en effet penser qu'elles auraient dû être distillées le début du quinquennat. Et la question qui se pose à cette occasion, c'est celle de l'attitude et de la crainte révérentielle des milieux politiques en général et de celui-là comme les autres à l'égard de la jeunesse, mais c'est aussi celle de la représentation étudiante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on regarde ses représentants, notamment de l'UNEF, 28 ans encore en licence, on ne peut pas encore...
C'est un signe de persévérance.
On ne peut pas ne pas voir le sénateur Bruno Julliard, le premier adjoint à la culture, pardon, pour la culture, à son propos de la mairie de Paris. Enfin bref, tous ces gens qui sont là dans des pépinières, dans des couveuses, et qui montre que ça n'est, c'est l'apparatchikisme qui triomphe. Oui, et de l'autre côté, il y a la nuit debout. Et la nuit debout, quand on y va, c'est le contraire. C'est comment est-ce qu'on peut essayer d'exprimer, c'est pas tant l'indignation, il y a quelques pôles d'indignés, j'allais dire quasi professionnels, qui s'indignent un peu à vide et qui sont regardés de manière, enfin là je parle d'expérience forcément ponctuelle, qui parle de manière folklorique, je dirais, plus que autre chose. Il y a d'un côté du travail, il y a des ateliers. Alors c'est le foutoir, parce que c'est des ateliers foutoirs, que c'est fait dans la rue, peut-être il va pleuvoir. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui vient apporter une connaissance à d'autres qui ont envie de la voir. Après, cette connaissance est quelquefois très sérieuse, d'autres fois elle est un peu plus marginale, et on nous parle de l'influence de la nuit polaire sur le psychisme des lapons, ou bien de certaines puissances occultes, etc. Mais de temps en temps aussi, elle est sur un sujet sérieux, et puis il y a l'idée de faire société. L'idée de faire société s'est passée comme par hasard, il y a 48 heures, par la musique, où un orchestre d'étudiants est venu donner la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, d'ailleurs fort bien, parce qu'on y voit comme dans un tunnel, et que le chef avait une espèce de bâton de gardien de la paix lumineux pour faire... Et les musiciens s'en sont fort vaillamment tirés. La montée de la satisfaction de cette œuvre... Cette façon de dire nous sommes ensemble, cette façon pacifique de dire nous sommes ensemble, m'a paru très très forte. Et puis en même temps, derrière ça, il y a 300 types qui attendent pour casser du flic et provoquer une
vitrine des commerçants du quartier
et provoquer, si possible, une aggravation de la chose, plus les expulsions, dont celle d'Alain Finkielkraut, dont on a parlé tout à l'heure. Mais je trouve que ça serait très intéressant d'essayer de faire le le départ entre ces différentes attentes et les différentes façons dont elles se manifestent. Thierry Pech.
Je voudrais revenir sur deux, trois points. D'abord pour dire que le syndicalisme étudiant ne se résume pas à l'UNEF. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est la Fédération des associations généralistes étudiantes qui est aujourd'hui majoritaire dans les universités, aux élections qui viennent d'avoir lieu, que cette fédération d'ailleurs a, moyennant une contrepartie obtenue sur la garantie jeune, soutenu la loi El Khomri, pas du tout dans le statu quo. Donc ne caricaturons pas, il y a les vieux appareils, effectivement, dont vous avez parlé, qui sont d'ailleurs pas tout à fait conformes à la caricature qu'on en fait, et puis il y a des mouvements un peu renouvelés qui sont intéressants. Je voudrais revenir sur un point en particulier, sur l'opposition entre la voie de l'indemnisation de la Sistana et la voie du travail ou du boulot, pour parler comme Martine Aubry. Ces deux voies ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent que si on croit à une chose, c'est que l'indemnité va décourager ou désinciter au travail. C'est la grande croyance des libéraux. Bon. En réalité, il y a des études qui ont été faites, empiriques, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, le premier problème, c'est le taux très élevé de non-recours aux minima sociaux, notamment au RSA. On atteint des taux qui sont scandaleux, en réalité. Et deuxièmement, c'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les gens, ils ont envie de travailler, parce qu'il y a une part de la dignité qui passe par le travail.
Surtout quand on est jeune.
De l'estime de soi. Ils ont envie de se réaliser par le travail. Toutes les enquêtes montrent que les jeunes aiment le travail. Et ils ont envie de s'y investir. Et peut-être, d'ailleurs, ils ont trop de rêves sur la capacité du travail à les réaliser personnellement. Bon, donc je crois qu'il faut s'élever contre cette opposition qui est factice en réalité, qui est née dans des esprits extrêmement théoriques. Enfin, sur le CDI paradis, je pense que c'est vrai et c'est faux en même temps, cette idée, François, si vous permettez. Les jeunes courent après le CDI et cet horizon, en général, ils ne l'atteignent pas avant 27-28 ans. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, le CDI, c'est quand même 2/3 du stock d'emploi aujourd'hui. C'est pas marginal, c'est pas dérogatoire, ça reste la majeure. Mais c'est une part infime des embauches, des premiers emplois, en effet. Alors, il y a ce premier aspect des choses. Effectivement, ils rêvent d'un CDI. Mais ils ne rêvent pas du tout du contenu du CDI. C'est-à-dire du lien de subordination, de la relation salariale classique. Ce que les DRH racontent, c'est qu'ils voient arriver des jeunes qui sont pas du tout dans cet esprit de subordination, de projection longue dans le même emploi, de la construction d'une carrière. Ils voient arriver des gens qui ont pas du tout le même rapport au travail. Et donc, je pense, si vous voulez, que le CDI a un succès purement instrumental. Ce qui fait le succès du CDI, c'est pas que ce serait un paradis, c'est que c'est la clé, c'est l'instrument pour avoir du crédit social auprès du bailleur, du crédit social auprès du banquier, du crédit social auprès des autres.
C'est la négation de la précarité.
Mais c'est pas du tout. Les jeunes ne se projettent pas dans le CDI comme idéal de la relation d'emploi. Pas du tout. Je ne crois pas.
Sylvie Kaufmann.
Oui, juste pour compléter ce que dit Thierry, c'est vrai que le CDI n'est pas forcément l'objectif ultime, enfin le rêve des jeunes aujourd'hui, mais la précarité, ils n'ont rien contre à condition que ça soit eux qui la contrôlent. C'est-à-dire effectivement un jeune qui entre dans un emploi est tout à fait a une facilité pour le quitter au bout de quelques mois si c'est pas tout à fait ce qu'il attendait ou s'il a un autre projet ou mais à condition évidemment c'est lui qui choisit le moment où il s'en va. C'est pas en revanche s'il sait que ça sera entrecoupé un CDD 3 mois plus un stage plus etc. Ça ce sont des conditions différentes. Je voulais revenir sur Nuit debout. Nuit debout pour je pense c'est un moment beaucoup plus qu'un mouvement. C'est une évolution, c'est une autre forme de cette contestation politique qu'on voit depuis plusieurs années, qui dans la jeunesse, qui était en 2005 la révolte des banlieues, ça c'était la forme violente et un peu extrême de cette population tout à fait déshéritée. En 2006, il y a eu le mouvement contre le CPE qui était encore autre chose, et puis aujourd'hui, on a ça, le Nuit debout. C'est un phénomène à longue gestation, qui traduit l'éloignement progressif mais très très profond de la politique et des partis et des institutions. Il y a une chose qui m'a frappée. On a parlé de la génération Bataclan en novembre, et une chose qui m'a vraiment beaucoup frrappée dans les portraits qu'on a fait qu'on a publié dans Le Monde des 130 victimes, il y avait une constante. C'était deux constantes en réalité. D'abord, c'était des gens, puisqu'ils étaient dans leur majorité jeunes et de trentenaires, qui s'étaient cherchés. Très souvent, leur famille disait ils se cherchaient, ils s'étaient longtemps cherchés, ils avaient trouvé ou elle avait fini par trouver sa voie. Donc c'est quelque chose qui prend quasiment une décennie, de 20 à 30 ans. Et puis l'autre caractéristique qui était assez répandue, c'était l'absence d'engagement politique. Et en même temps, un esprit civique qu'on retrouvait dans des participations à des associations, dans des actions ponctuelles à caractère social. Mais je crois qu'il n'y en avait pratiquement pas parmi ces victimes qui étaient membres d'un parti politique ou engagés vraiment de manière durable dans un syndicat. Or, on voit qu'il y a quand même, donc on a tendance à parler de dépolitisation. En réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie envie de politique, de débat, de pas forcément d'action, comme vous avez décrit ce qui se passe sur ces ateliers, alors ateliers du rêve, je ne sais quoi, Place de la République, mais il y a un besoin d'échange et de débat ensemble qui dépasse très largement l'espace numérique, parce que on n'est pas frustré de débat aujourd'hui. Au contraire, on a d'infinies possibilités de débattre sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. Mais visiblement, il y a ce besoin d'échange, de mise en commun d'idées auxquelles on assiste aujourd'hui. Alors, ça, je crois que c'est très différent du mouvement des Indignados espagnols. Ça n'a pas le même caractère massif. Ça n'a pas la même volonté d'action, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui ne débouchera peut-être pas nécessairement sur des actions concrètes ou un mouvement concret, mais je crois qu'il est très intéressant.
Oui, je suis allé avec quelqu'un qui m'a dit c'est exactement comme à la télé, les bons et les mauvais débats, les mauvais l'emportent de beaucoup sur les bons, enfin les confus l'emportent de beaucoup sur les bons, mais ce qui n'est pas, c'est pas comme à la radio, notamment pas comme à la radio le dimanche matin. Mais la différence, c'est que on peut aller boire un coup avec une personne qu'on a repérée dans le débat, voir plus si affinité, et qu'il y a dans tout ça quelque chose qui donne l'impression que non pas qu'on fait société, c'est en dessous de ça, mais que on s'avance un peu. Moi, je crois, et sur un autre plan, d'ailleurs politique aussi, je dirais que si c'est ça qu'Emmanuel Macron est en train de fédérer, de repérer, de transformer en quelque chose de productif, à mon avis, il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et qui est de nature à réussir, ou en tout cas à peser lourd.
Juste une chose, c'est quand même très limité. C'est un moment qui est limité. Je crois d'abord ça dépasse la jeunesse, ça n'est pas seulement un mouvement de jeunes, mais c'est aussi limité socialement. C'est-à-dire, je crois que la grosse constatation qu'on fait en ce moment, c'est que c'est le risque de l'entre-soi. C'est-à-dire, ça reste quand même ça. Des classes moyennes éduquées.
Oui, il n'est pas sûr que Nuit debout soit en marche.
Non, c'est la seule chose dont on sache qu'il est vraiment en marche, c'est l'immobilisme. Thierry Pêche.
Un mot très court sur Nuit debout. C'est une fraction microscopique de la jeunesse, Nuit debout, disons-le. Les médias ont offert une caisse de résonance absolument fantastique à cette affaire. Mais il y a quelque chose de très important dans Nuit debout. C'est ce que vous releviez, je crois. En tout cas, c'est important à mes yeux. C'est le caractère exemplaire d'un certain nombre de pratiques, pas des casseurs naturellement, pas de ceux qui virent Finkielkraut de la Place de la République, mais de ceux qui jouent de la musique et de ceux qui font le pari de la connaissance partagée, de la connaissance co-construite. Si Nuit debout peut être le départ de nouvelles méthodes de mobilisation, moins négatives, plus productives, plus capables de transcender les problèmes par des propositions et la connaissance, alors Nuit debout est le début d'une histoire importante de mobilisation sociale.
Jean-Louis Bourlange, je vous ai vu à Nuit debout l'autre jour avec une grande perrue verte frisée.
Oui, c'est ça, j'ai été reconnu, ciel. Trois observations. D'abord sur la remarque de Thierry sur le caractère désincitatif à l'emploi ou pas des minima sociaux. Je crois que Thierry, c'est un problème qui ne peut pas se poser en termes absolus. Il n'y a pas d'un côté les minima sociaux ne seraient pas soit totalement négatives sur la volonté de chercher l'emploi ou au contraire totalement désincitatives. Je pense qu'il y a des attitudes différentes au sein de la jeunesse, et il y a effectivement une grande majorité de gens
pour qui c'est absolument pas décourageant en termes de recherche d'emploi de recevoir une indemnité, Dieu merci. Il y a des gens qui croient, qu'ils soient libéraux ou marxistes, qui croient à la valeur travail, qui croient à la réalisation de l'homme par le travail, ce que vous disiez. Et je pense que c'est fondamental. Et heureusement, il y a une très large majorité de la jeunesse qui est sur cette ligne. Il n'empêche que vous avez à la marge des comportements de désincitation à partir du moment où vous avez un revenu en alternatif, vous avez une moindre mobilisation. Moi, je me rappelle, j'avais été très frappé dans mon village, le chef-lieu de mon canton, pourtant, pour être plus précis, d'une famille. Il y avait une jeune femme qui s'était lancée, qui avait fait une petite entreprise d'esthéticienne. En fait, elle s'était endettée, elle avait fait des choses, elle travaillait, elle se réalisait. Et elle était à couteau tiré avec son frère, qui lui était en famille, et ils étaient tous les deux, ils ne foutaient rien, le frère et la femme du frère, et ils recherchaient systématiquement toutes les primes possibles. Et on voyait bien que c'était deux modèles de rapport à la société qui coexistaient. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas un modèle fondé sur la combinaison des minima sociaux, d'horaires relativement limités et d'une frange de travail noir qui permet à des gens de vivre sans effectivement se confronter réellement à une existence professionnelle. Et je crois que ça n'est pas le bon moment, quand on a 18 ans, de donner ce sentiment. Je crois que 25 ans, c'était sans doute trop tard, mais 23 ans. Alors, deuxièmement, pour reprendre la phrase, je suis pas toujours d'accord, le moins qu'on puisse dire, avec Martine Aubry, mais je crois qu'elle a raison. Je crois que le vrai problème pour l'emploi des jeunes, c'est de diminuer le coût du travail représenté par des jeunes qui sont sans expérience et sans formation, que, à l'évidence, qu'on a essayé de faire, ce que M. Balladur, puis M. de Villepin ont essayé de faire au cours des 20 dernières années, à travers des expériences comme le SMIC jeune ou le CPE, ça n'a pas marché. Mais il est évident qu'il faudrait faire, d'ailleurs c'est au bout du compte une extension générale de la notion d'emploi aidé, il faudrait soustraire assez systématiquement le coût pour les chefs d'entreprise, petites ou grandes, le coût de rémunération, le coût du travail pour des jeunes gens qui sont, ou des jeunes filles qui sont en premier emploi. Or là, les mesures ne vont pas du tout dans ce sens, y compris la revalorisation de l'apprentissage entre 16 et 18 ans. Un mot encore non. sur la... Non, non, pas de mot sur non, la, pas la, mot la fête.
Je suis navré, mais si nous...
C'est dommage que c'était vous que je voulais contredire, mais c'est... je comprends que...
c'est la raison pour laquelle...
Donc vous êtes beaucoup moins navré.
Vous l'avez échappé belle et je vois bien que votre inconscient a parlé. Oui, non, je voudrais que nous ne laissions pas passer cet événement important qui est l'échec du sommet de Doha sur le gel de la production de pétrole, puisque dimanche dernier, les discussions organisées à l'initiative de Riyad sur le gel de cette production se sont heurtées à l'attitude de l'Iran qui refuse d'entériner une décision que l'Arabie Saoudite voudrait voir adoptée par tous les membres de l'OPEP jusqu'en octobre 2016. La réunion de Doha avait associé pour la première fois depuis 15 ans les pays de l'OPEP et d'autres grandes puissances pétrolières, notamment la Russie, deuxième producteur mondial, qui en février s'était mis d'accord avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Venezuela sur le gel de la production à son niveau de janvier. Le prix du baril de pétrole, qui était déjà passé de 110 à 50 dollars entre janvier 2014 et janvier 2015, a poursuivi sa chute début 2016 jusqu'à tomber sous la barre des 30 dollars. Le marché a repris depuis et oscille aujourd'hui entre 39 et 42 dollars le baril. Dans un rapport publié en février dernier, l'Agence internationale de l'énergie indiquait qu'il faudra attendre l'année prochaine pour que les marchés pétroliers, plombés par une offre largement excédentaire, puissent se rééquilibrer. L'Iran, sorti en janvier dernier de plusieurs années d'embargo, entend retrouver son rang sur le marché pétrolier. Il a donc augmenté sa production à 3,3 millions de barils par jour en mars, soit 10% de la production de l'OPEP. Les Saoudiens, quant à eux, refusent de geler unilatéralement leur production. Et Riyad exerce une pression sur le cours du baril depuis 2014 en maintenant des prix très bas, dans le but d'affaiblir ses concurrents, notamment le pétrole de schiste américain, et de retarder le retour de l'Iran sur le marché. Par ailleurs, la grande puissance sunnite veut limiter les ressources de Téhéran afin de l'empêcher de financer différents mouvements chiites au Yémen et en Syrie.
Enfin, la Russie, dont la moitié des recettes budgétaires proviennent de l'exploitation pétrolière, souffre de la baisse des cours et, espérait violemment, aboutir à un accord à Doha. La prochaine réunion aura lieu le 2 juin. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, ça a l'air un petit peu rébarbatif comme ça, mais cette affaire est tout à fait passionnante. Pourquoi ? Parce que elle est l'évolution de cette réunion de Doha et son échec illustre dans la série des grands retournements mondiaux l'évolution profonde du marché pétrolier depuis 10 ans et l'évolution profonde de cette organisation qui a fait peur au monde entier, l'OPEP, enfin surtout aux pays consommateurs. À une époque, il y a 10 ans, je voudrais vous ramener 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, la demande de pétrole explosait et le cours du baril a même atteint $140 en 2008. Vous venez de citer le cours actuel qui est entre 39 et 42, je crois, mais il est même descendu à $27 en janvier. Donc, c'est vous dire la mesure de ce retournement. Pourquoi est-ce que il y a 10 ans le pétrole était roi? Parce que la Chine était en pleine ascension et donc avait cette fin de matières premières et notamment de pétrole qui faisait exploser la demande. Aujourd'hui, en revanche, le risque n'est plus celui de la pénurie. Le risque est vraiment le problème, et c'est plus qu'un risque, c'est un problème auquel on est confronté, et celui de la surproduction. Pourquoi ? Parce que la Chine, l'économie de la Chine maintenant a ralenti, et donc la demande est beaucoup moins forte. Par ailleurs, non seulement la croissance économique chinoise a ralenti, mais la Chine se transforme elle-même le modèle économique chinois est en cours de transformation. Il y a la transition énergétique qui est en cours dans un très grand nombre de pays. En 2010, je crois qu'il y avait 73 pays qui avaient un programme bien établi de transition énergétique. Aujourd'hui, il y en a 164. Et puis, il y a surtout l'irruption du pétrole de schiste américain, qui est une véritable révolution sur la scène énergétique. Juste pour vous donner un exemple, un chiffre pour illustrer cette révolution. Donc, au cours des 5 dernières années, les États-Unis ont produit 4 millions supplémentaires de barils par jour de pétrole. C'est l'équivalent de la production d'un pays comme le Koweït. Et donc, ça a complètement bouleversé le marché parce qu'on produit aujourd'hui plus de pétrole qu'on en consomme. Et ce pétrole qui n'est pas consommé va gonfler des stocks qui font que les cours, effectivement, s'effondrent, enfin, se sont effondrés. Donc, l'OPEP a essayé, l'Arabie Saoudite en leader, a essayé de réagir. Il n'y arrive pas. On est en présence d'une vraie perte de contrôle de l'OPEP et de l'Arabie Saoudite de la production pétrolière.
François Bujon de l'Étang.
Oui, je vais embrayer sur cette dernière remarque de Sylvie. Une perte de contrôle de l'OPEP, dit-elle. Oui, qu'est-ce que c'est que l'OPEP ? L'OPEP, c'est un cartel. Et un cartel, ça marche quand les principaux membres du cartel ont des intérêts convergents et veulent la même chose. Aujourd'hui, ce cartel élargit d'ailleurs, puisqu'en effet, la Russie a été invitée à y participer, alors qu'elle n'est pas membre de l'OPEP, n'a pas d'intérêt convergent. Il y a des luttes d'influence, des luttes de pouvoir, des luttes politiques entre ses principaux membres, et le triangle infernal que constituent l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie tire évidemment l'attelage dans 3 directions différentes. Il n'y a pas convergence des intérêts de ses membres. Le retour de l'Iran au sein de l'OPEP est un problème majeur, non seulement pour l'Arabie Saoudite, mais pour le cartel tout entier, car si l'Iran, enfin libéré des sanctions, retrouve son niveau de production antérieur, bien entendu, sa part de marché va se faire au détriment des autres. D'autant plus, et je l'ajoute ici une remarque toute bête, mais un cartel, ça peut agir sur l'offre, bien entendu, et c'est ce que cherche à faire l'OPEP. Mais ça ne peut pas agir sur la demande. Et si la demande en même temps baisse parce que la croissance chinoise est en berne ou parce que la croissance est faible dans les pays occidentaux, l'OPEP doit réagir en adaptant l'offre, c'est-à-dire en restreignant sa production de façon à maintenir le prix. Bon, alors à cette considération économique élémentaire, s'ajoute, bien entendu, une considération d'influence politique. L'Arabie Saoudite a les moyens de diminuer la production ou de geler la production et de forcer l'OPEP à geler sa production sans trop en souffrir. Elle en souffre, bien entendu, puisque pour la première fois, elle a un budget en déficit, quand même, de 80 milliards de dollars. C'est une affaire tout à fait importante, son déficit record, 89,2 milliards de dollars en 2016, c'est-à-dire 15% du produit intérieur brut, s'il vous plaît, qu'il faut évidemment combler. Alors, elle comble en empruntant sur les marchés, on n'avait pas vu ça, quand même, depuis très 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 longtemps, et en pompant sur ses réserves de change, qui sont évidemment considérables. Mais cet effort-là qu'elle peut faire, et que, dans une moindre mesure, les autres monarchies du Golfe, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, peuvent aussi consentir, est un effort insoutenable pour d'autres économies, comme celle de la Russie, par exemple, qui a, elle aussi, dû pomper dans ses réserves de change considérablement, mais qui souffre beaucoup. Et que dire des producteurs plus mineurs, qui produisent à des coûts plus élevés, comme l'Algérie, comme le Nigeria, ou comme le Venezuela, qui est quasiment en faillite.
Thierry Pêche. Un mot pour préciser un mécanisme économique qui est souvent mal compris. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de baisse de la demande. La demande, elle continue à augmenter. La vérité, c'est qu'elle augmente moins vite que la production. On est vraiment dans une crise de surproduction. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que la Chine, sa croissance a fléchi, mais c'est toujours une croissance positive et même très positive par rapport à la croissance de d'autres régions du monde comme l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique cette surproduction? C'est l'exploitation des pétroles non conventionnels et le surinvestissement à un moment où la pénurie était anticipée et où les investisseurs ont anticipé une consommation beaucoup plus vigoureuse qu'elle ne l'a été du côté des émergents. C'est ça. Et comme ce sont des cycles d'investissement longs, qui se passent longtemps entre le premier dollar ou le premier euro mis sur un site d'extraction et les premiers barils, eh bien on se trouve aujourd'hui dans une situation de surproduction. Il n'est pas impossible que le pari des Saoudiens soit, en ne gelant pas, en ne freinant pas la production, de noyer les investisseurs américains dans les huiles de schiste, c'est-à-dire les pétroles non conventionnels, qui sont beaucoup plus coûteux à extraire.
Jean-Luc Bourlange.
Oui, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est dans cette affaire le court-termisme des acteurs et notamment de l'Arabie Saoudite. À court terme, les mesures qui sont prises, le refus de contrôler, de limiter la production, c'est un coup terrible pour énormément d'économies, sauf pour l'Arabie Saoudite qui estime avoir les moyens, mais c'est un coup terrible pour le Venezuela, pour la Russie, pour l'Iran, pour les États-Unis, pour l'Algérie, donc des producteurs OPEP ou non OPEP. Tous n'en mourront pas, mais tous sont frappés, et sont frappés durement. Et le profit pour l'Arabie Saoudite est quand même assez incertain. Je sais bien qu'elle a peut-être le sentiment d'avoir des réserves totalement inépuisables, mais ce n'est pas le cas. De toute manière, elle aurait intérêt à prolonger, à jouer les courbes, à faire durer ses réserves, et à jouer plutôt l'augmentation des prix. Si elle ne le fait pas, c'est en réalité, et c'est la passion politique à l'état pur, elle veut sans doute faire payer un peu les Américains qui se sont éloignés d'elle, et notamment qui ont passé un accord avec l'Iran. Elle veut faire payer l'Iran, elle veut faire payer la Russie, et elle est prête à se mettre dans des situations budgétaires qui sont une situation budgétaire qui est elle-même très difficile pour elle, parce qu'elle est quand même formidablement endettée. Elle fait donc c'est quand même quelque chose qui est, c'est vraiment un jeu à somme négative, et je pense que le jeune prince héritier qui mène toute cette affaire avec beaucoup d'énergie et un peu de désinvolture devrait quand même essayer de prendre la mesure des enjeux à long terme.
Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'introduirai brièvement en recommandant deux ouvrages, l'un de Marie-France Etchegouin chez Stock qui s'appelle Marseille, le roman vrai. Le journalisme est vraiment un beau métier quand il ne se mêle ni de prêcher, ni de faire semblant de faire de la politique sans en faire, quand il va voir et qu'il a cette passion de comprendre, ce goût profond de comprendre les gens, de les mettre en scène et de chercher le bon moyen de traduire la réalité qu'elle a sous les yeux. Marie-France Etchegouin n'est pas partie avec l'idée de réformer Marseille, de devenir la Jeanne d'Arc de Marseille, ou la Jeanne Gaudin, ou la Jeanne de Fer, je ne sais pas. Elle est partie avec un goût pour Marseille qui s'est affiné au fur et à mesure des mois qu'elle y a passé, et elle en fait un portrait dont tous les acteurs ne sont pas des gens avec qui on a vraiment, ou à qui on a vraiment envie de serrer la main, mais ce sont tous les acteurs et ils sont là. Et dans un autre genre, mais le même genre, le genre du journalisme, d'ailleurs chez Stock aussi, c'est Géraldine Smith qui publie un livre qui s'intitule « Rue Jean-Pierre Timbaud, des bobos aux barbus ». Géraldine Smith et son mari, comme disait autrefois Philippe Noiret, ils ont la carte. C'est-à-dire ils sont de gauche, ils ont été à Libération, Smith a été l'homme de l'Afrique à Libération avant de le devenir au Monde, il est américano-germanique, elle, elle est française, ils ont beaucoup voyagé et ils font partie de cette nouvelle bourgeoisie. Et comme ils sont cohérents avec les valeurs de cette nouvelle bourgeoisie, ils vont s'installer rue Jean-Pierre Timbaud, c'est-à-dire tout au bout de la rue de Belleville, où là, ils veulent mettre leurs enfants à la crèche communautaire, à là où à l'école laïque. Et puis, je vous laisse lire le livre, parce que la probité de cette description, avec ce qu'il y faut de sentiments de regret, puisqu'ils sont partis aux États-Unis maintenant, et qui ne reviennent en France que de temps en temps pour aller parler avec les gens qu'ils ont quittés. La probité de cette description a, pour elle, sa qualité, mais aussi le fait que c'est le premier livre sur cet échec de l'intégration, ou sur ces excès, ou cette violence du communautarisme, qui vient de gens qui ont la carte, qui ne sont pas soupçonnables de traîner derrière leurs critiques des relents de je ne sais quelle idéologie malsaine dont on fait reproche à tel ou tel. Et je pense que c'est le commencement d'une parole libre et d'une parole vraie et documentée qui ne peut nous faire que du bien. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je vais céder à la tentation, à la mode de la macromania, de deux manières. D'abord, j'ai constaté que Monsieur Macron a été invité.
Vous êtes déjà macrocéphale, ce
oui,
qui explique.
Oui, je crains de. Je vous remercie, c'est très gentil. Alors, pitié des espèces en voie de disparition.
J'ai pas dit hydrocéphale.
Glong, glong. Monsieur Macron a été invité à Orléans à fêter les fêtes de Jeanne d'Arc. Et à cette occasion, ah, tout le monde...
C'est pas le contraire, c'est pas Jeanne d'Arc qui a été invité à fêter
non,
la fête
je
de
crois
Macron.
Que, ça c'est le général de Gaulle, qui, quand on lui dit faut aller à Don Rémy en 45, il dit elle le mérite bien. Et là, tout le monde a dit, c'est incroyable, il se prend pour le sauveur de la France, ça c'est évident, mais c'est quand même une valeur de droite, etc. Je me rappelle que Thierry, d'ailleurs, avait fait une petite allusion il y a quelques mois en disant, pour marquer des ciblages à droite, des gens qui honorent Jeanne d'Arc comme le Front National. Or, je crois qu'il faut quand même bien se rappeler que la caractéristique de Jeanne d'Arc, c'est que c'est une figure qui a été, qu'on a tout à fait abusivement, laissé prendre au front, par le Front National. En réalité, c'est une figure historiquement de gauche dans l'imagerie française. C'est l'héroïne fondamentale de Jules Michelet. Il en fait le symbole de la France. Malraux, dès son discours de 35 sur l'Éthiopie, évoque la Jeanne d'Arc que la droite brûle avec le roi d'Angleterre, la tendance de la droite à réhabiliter les Jeanne d'Arc, qu'elle laisse brûler avec le roi de France et qu'elle fait brûler avec le roi d'Angleterre. Donc en 35, sur l'Éthiopie, Malraux fait ça. Et quand il fait son discours d'inauguration de Brasilia, à l'époque où nous étions, il décrit ça, lors de l'inauguration de Brasilia, écrit-il, il y a 4 ans, les enfants représentèrent quelques scènes de l'histoire de France. Apparut Jeanne d'Arc, une petite fille de 15 ans, sur un joli bûcher de feu de Bengale, avec sa bannière, un grand bouclier tricolore et son bonnet phrygien. J'imaginais devant cette petite république le sourire bouleversé de Michelet ou de Victor Hugo. Et c'est tout à fait exact. Et là, on est. Et il dit très justement, à la fin de ce discours que je cite, un discours à Rouen, il dit Jeanne d'Arc, il la présente comme la seule figure de victoire qui soit aussi une figure de pitié. Alors, ma seconde remarque, c'est pour attaquer le journal de Madame Kaufmann. Oh. Je trouve qu'il y a un sous-titre sur Macron qui est tout à fait intéressant. On dit l'offensive Macron, premier sous-titre, l'ex-banquier veut nourrir un projet présidentiel. Pourquoi l'ex-banquier? On aurait pu dire le ministre de l'économie, on aurait pu dire l'ex-conseiller du président de la République, on aurait même pu dire l'ex-disciple de Paul Ricoeur. Non, l'ex-banquier. Ça ne peut être qu'une stigmatisation qui n'a absolument pas lieu d'être dans un titre.
Je ne crois pas.
Non, mais c'est certainement sans rapport avec le sujet. Et je ne vois pas que quand Henri Emmanuelli, c'est ça que je veux dire, a été candidat à la présidence de la République en 1995, en concurrence avec M. Jospin, le Monde est titré l'ex-banquier Henri Emmanuelli.
Thierry Pêche. Ce qui distingue les Jeanne d'Arc de droite des Jeanne d'Arc de gauche, c'est qu'à droite, elles entendent plus de voix qu'à gauche, si je peux me permettre. Oui. Et il y a une Jeanne d'Arc de droite.
Enfin, à gauche, elles sont schizophrènes, c'est ça?
Non, peut-être d'ailleurs Emmanuel Macron entend-il beaucoup de voix.
Si elle passe à gauche, elle pourrait rapporter plus de voix.
Alors, un mot, comme Jean-Louis se souvient de toutes mes interventions, y compris des plus discrètes, il se souviendra sans doute que j'avais été très virulent à l'égard d'Alain Finkielkraut et je voulais saisir l'occasion des malheurs qui lui sont arrivés place de la République pour lui tirer mon chapeau. Parce que contrairement à Nuit Debout, c'est un homme qui, pourtant je suis rarement d'accord avec lui, a un sens du pluralisme démocratique qu'il honore. Dans l'émission qu'il anime sur cette même antenne, il a toujours su recevoir bien souvent des gens avec lesquels il était en désaccord. Et donc je voulais lui tirer mon chapeau pour son esprit démocratique.
Message transmis, Sylvie Kaufmann.
Alors moi, je voudrais parler d'un livre très simple et à la fois très compliqué que je conseille aux organisateurs ou aux organisatrices du Hijab Day à Sciences Po. C'est un livre d'une journaliste aussi, Claude Guibal. Ça s'appelle Islamistan, visage du radicalisme. C'est chez Stock. Et Claude Guibal a passé 20 ans dans le monde arabe et elle avoue très sincèrement qu'elle essaie de comprendre les ressorts du radicalisme et qu'elle n'y arrive pas toujours. Alors elle essaye de nous donner des éléments de réponse à travers une dizaine de portraits de gens, de vrais gens qu'elle a rencontrés au Caire, à Riyad, à Lyon ou ailleurs. Et beaucoup de ces gens sont des femmes. Et évidemment, du coup, ces interrogations tournent aussi autour du voile et du niqab. Je voudrais juste lire quelques vers.
Il faut vraiment que ce soit indistique, parce qu'on n'a plus le temps.
Voilà, qui termine le livre, des vers, d'un soufi perse. « Nos déserts n'ont pas de limite, nos âmes et nos cœurs n'ont aucun répit. Le monde a été enterré dans le monde par les images et les traits. Laquelle de ces images est à nous? Quels sont tes traits? Que puis-je dire? Que puis-je savoir? Cette histoire est au-delà de nos limites et de nos forces. Comment puis-je rester silencieux quand par moments notre angoisse devient plus forte? Oublie cette histoire, ne nous interroge pas, car notre fable est celle de la ruine totale. »
François Bujon de l'Étang.
Je voudrais vous dépayser et vous emmener loin de Jeanne d'Arc et de Rosa Luxembourg. Et tout simplement pour vous dire que j'étais à Rome la semaine dernière et j'avais emporté dans ma valise un petit livre que m'avaient donné des amis italiens, un livre de Marco Lodoli qui s'appelle « Il, guide vagabond de Rome » et qui est publié à la Fosse aux Ours. C'est pour tous ceux qui ont envie de lire autre chose que Stendhal sur les promenades dans Rome, c'est une lecture recommandée. C'est un petit livre tout à fait impressionniste qui est tout sauf un guide, qui est simplement un livre qui enfile comme des perles ce que l'auteur appelle des îles, c'est-à-dire des scènes, des endroits particulièrement séduisants ou des anecdotes qui rendent compte de l'âme romaine, finalement. C'est un livre absolument charmant et que je recommande à tous ceux qui souhaitent se dépayser.
Je vous remercie. Nous avons maintenant rendez-vous avec Alain Krüger et avec On ne parle pas la bouche pleine. Son émission s'intitule Dans la caravane des Romanes, puis il reçoit Delia et Alexandre Romanes, les fondateurs du cirque tzigane du même nom, qui a planté son chapiteau à l'orée du bois de Boulogne et dont nous recommandons la visite. Mais là, c'est l'occasion de visiter la cantine, la caravane cantine des Romanes, où toute la famille partage la même table et de goûter aux petites feuilles de chou farci, aux gamelles de goulash ou au poulet fermier, à la polenta et surtout à l'esprit de la cuisine. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Véronique Villa, préparée avec Adrien Azelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.